Paul, pendant le temps de prière, il a demandé si vous voulez partager un témoignage de la gloire de Dieu dans votre vie, sentez-vous libre. J'aimerais commencer ce temps en partageant un témoignage avec vous, qui vous concerne tous aussi. En février, Charlotte et moi sommes venus pour la première fois dans cette église de manière discrète, de sorte que vous ne voyez pas. On a rencontré le conseil, on a rencontré David et Paul, et on a discerné ensemble, est-ce que c'était pertinent pour moi de venir dans cette église pour faire mon stage? Bon, on s'est senti tellement bien accueillis qu'en partant de l'église ce dimanche-là, on a prié Dieu, si tu peux, envoie-nous à Nîmes, on aimerait bien. Voilà, quelle réponse à nos prières. Le témoignage n'est pas fini. La fin de l'année scolaire est arrivée très vite et tout d'un coup, nous avons eu besoin d'un logement à Nîmes. Et pendant le mois de juillet, on savait qu'on n'allait pas avoir un logement, donc on avait besoin absolument de trouver un endroit où on pouvait stocker nos affaires. Pas beaucoup, mais suffisamment grand pour avoir quoi, 6 mètres cubes. Et c'est à ce moment précis que Charlotte et moi avons pensé à un couple que nous avons rencontré dans cette église même. Et il faut savoir que leur offre n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ils ont dit, si vous revenez à Nîmes, n'hésitez pas à nous contacter, on serait heureux de vous inviter chez nous. Bon, je demande à Paul, tu peux me donner leur contact? On a besoin d'un endroit pour dormir pendant 10 jours. Et stocker nos affaires. Ils ont accepté avec joie, avec plaisir, de nous accueillir pendant 10 jours, de garder nos affaires pendant un mois. C'était génial. Et c'était un temps vraiment génial où nous avons beaucoup rigolé. Et malgré la différence d'âge, nos différentes cultures, nos différents points de vue, nous avons été accueillis comme à la maison. Cet accueil bienveillant, généreux et inconditionnel nous a touchés au point qu'en partant, Charlotte, elle a pleuré. Et moi, à l'intérieur, bien sûr. Quand nous arrivons au CMLK, à l'Assemblée chrétienne de Nîmes, est-ce que nous sommes accueillis comme à la maison? Est-ce que nous sommes acceptés malgré nos différences? Et je ne parle pas de l'équipe d'accueil parce que je trouve qu'ils font un ministère vraiment génial et on peut les applaudir pour ce qu'ils font. Je parle plutôt au sein de notre communauté, de notre assemblée. Est-ce que parmi nous, avant le culte, après le culte, pendant la semaine, est-ce que nous accueillons les uns les autres comme Christ nous a accueillis? L'apôtre Paul invite l'Église de Rome à accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Et je vous propose de découvrir ce texte ensemble. Donc si vous avez votre Bible, vous pourrez l'ouvrir à Romains 15. Romains 15, verset 7 à 13. Et je vais lire dans la version de Bible de Semeur. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'ai affirmé, ce que j'affirme. C'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre par mes chants. Et ailleurs, peuple, réjouissez-vous avec son peuple. Ou encore, louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. Ésaïe dit de son côté, « En rejetant naîtra d'Ésaïe, on le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. » Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix pour votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous appelles ici ce matin. Tu nous appelles à faire partie de cette assemblée et de qui tu es. Seigneur, nous voulons être unis en toi. Amen. Pour accueillir de façon semblable à Christ, accueillons nos différences. Puis accueillons l'exemple de chacun. Et finalement, rendons gloire à Dieu par notre accueil. Accueillons nos différences. Dans l'Église de Rome, lorsque Paul écrivait cette lettre, il existait une tension entre deux groupes de chrétiens. Et en Actes 18, verset 2, nous comprenons la source de ces tensions. Donc je lis Actes 18, verset 2. Il, donc Paul, y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Ce verset nous raconte l'expulsion des Juifs de Rome par l'empereur de Claude en l'an 49 à 50 ou 50 avant, après Jésus-Christ. À cette époque, il y avait déjà certains Juifs qui croyaient que Jésus était le Messie et d'autres, non. Et pourtant, l'empereur Claude n'a pas fait de différence. Les Juifs croyant en Jésus et les Juifs non croyant en Jésus devaient tous être expulsé de Rome. L'évangile s'étant déjà répandu à Rome, des chrétiens d'origine non-juive continuaient à se réunir pour louer Dieu. De même, les chrétiens juifs expulsés de Rome continuaient à vivre selon l'évangile eux aussi. Mais une décennie plus tard, et les juifs pouvaient désormais revenir à Rome. Mais en arrivant, les chrétiens d'origine juive se rencontrent à une réalité qui n'est pas la leur. Et dans le chapitre 14 de Romains, nous découvrons que les deux groupes de chrétiens ne pratiquaient pas leur foi de la même manière. Et cela, bien sûr, a créé des frictions. Les chrétiens d'origine non-juive mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils ne respectaient pas forcément le jour du sabbat. Tandis que ceux d'origine juive étaient habitués à ne pas manger certaines nourritures et à observer ce jour. Donc Paul distingue ces deux groupes. Non pas pour condamner l'un ni valoriser l'autre, mais surtout pour leur rappeler leur unité qui réside en Christ. Le verset 10 du chapitre 14 dit ceci. Pourquoi, pour qui condamnes-tu ton frère? Au sein de la division de l'Église de Rome, Paul rajoute un élément de famille. D'abord, oui, le jugement appartient à Dieu seul. Mais en plus, lorsque nous condamnons un frère ou une sœur en Christ. Nous sommes donc invités à agir en fonction de notre conviction, sans jugement ni mépris envers ceux qui pratiquent leur foi autrement. Et Paul appelle l'Église de Rome à s'accepter mutuellement et à cesser de contester les opinions des uns des autres. Mais précisons-le, Paul s'adresse à des chrétiens qui croient en Dieu et en l'œuvre salvatrice de Fils à la croix. Et donc, en aucune manière, Paul ne nous invite à accepter parmi nous une autre croyance que celle en Jésus, mais bien à vivre notre foi unie à lui. Ainsi, il n'y a pas de place pour du jugement et le mépris. Mais de la même façon, il n'y en a pas non plus pour se laisser aller et se laisser glisser vers une foi vidée de sens, sans fondement en Christ. Le verset 7 dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis. » La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance d'aimer notre prochain comme Christ nous a aimés lui-même. Et ici, Paul nous appelle à le mettre en pratique concrètement. Il nous exhorte à aimer ceux qui sont différents de nous, à accepter ceux qui ne partagent pas notre point de vue et à accueillir même ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Timothy Keller écrit au sujet de l'unité dans l'Église et dit ceci. L'Évangile crée une communauté parce qu'il élimine la peur et leur orgueil. Il fait en sorte que des gens qui ne pourraient jamais s'entendre à l'extérieur de l'Église s'entendent en son sein. C'est comme une famille biologique. On ne peut pas la choisir. Et même si nous essayons de nous éloigner, nous partageons toujours le même sang. De même, dans l'Église, il peut y avoir des moments de division. Mais unis par le même Saint-Esprit, nous sommes appelés à retrouver la paix. L'accueil que Paul envisage est un accueil constant qui se renouvelle et qui est alimenté par la bienveillance et le pardon. Si vous croyez dans la vie éternelle, levez votre main. Alors, si nous croyons dans la vie éternelle, je crois qu'on ne peut pas croire dans une division permanente entre nous. Parce que de toute façon, on va être appelé à se revoir. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous, il nous aide à retrouver la paix. Et nous devons être à l'œuvre pour retrouver cette paix en nous aussi. Oui, Dieu convainc qui il veut. L'Évangile, comme Paul a dit d'ailleurs, n'a pas de barrière. Alors qui sommes-nous pour décider qui peut être accepté dans notre cercle de croyants? Paul nous dit que Christ lui-même nous a accueillis. Oui, Jésus est venu pour composer une famille unie, formée autour de lui, formée de juifs, de non-juifs, de français, de camerounais, et pourquoi pas des Écossais. Paul écrit en Galates 3, 28, « Il n'y a ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis en Christ, vous êtes tous un. » Je trouve que le peuple de Dieu ressemble à un bouquet de fleurs hétérogènes. Des fleurs de tailles différentes, de couleurs différentes, de variétés différentes, toutes choisies par le fleuriste, et peut-être moi quand je vais chez le fleuriste. Et ces fleurs se retrouvent dans le même vase, nourries par la même eau. Paul nous invite donc à laisser de côté nos différences et à agir avec humilité à la lumière de celui qui nous a accueillis le premier, Jésus-Christ. Je vais chercher de l'eau. Si nous accueillons nos différences, il faut aussi être capable d'accueillir l'exemple de chacun. De chacun, celui qui est différent de nous, il s'agit d'apprendre à les accueillir aussi. Ça fait du bruit, hein? Accueillons l'exemple de chacun. Jusqu'ici, nous nous sommes surtout arrêtés sur le chapitre 14 pour comprendre l'exhortation du verset 7. Mais désormais, Paul tourne son regard vers les chrétiens d'origine non-juive de Rome. Les versets 8 à 12 sont écrits par Paul pour démontrer l'importance des Juifs au sein du peuple de Dieu. Si dans le chapitre précédent, Paul a laissé sous-entendre qu'ils étaient mal affermés dans la foi, maintenant, il veut les encourager et les inviter, et inviter les chrétiens d'origine non-juive à les respecter. La deuxième partie de ce verset 7 nous invite à accueillir tout comme Christ nous a accueillis. Et la suite du texte nous montre que Christ a accueilli d'abord les Juifs et puis les non-Juifs. Dieu est un Dieu d'ordre et son accueil, l'accueil de Jésus, est un accueil d'ordre aussi. En Genèse 17, Exode 6 et ailleurs dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a choisi le peuple juif, les Israélites, et il a décidé d'être leur Dieu. Et ainsi, il représentait Dieu parmi les nations et représentait le Dieu véritable. Dans les versets 9 à 11 de notre chapitre, Paul invite les chrétiens d'origine non-juif à voir que Dieu a utilisé les bouches des Juifs pour les appeler à lui. C'est écrit dans le verset 9 à 11. « Je publie mes louanges parmi le peuple. Je te célèbre par mes chants. Peuple, réjouissez-vous avec son peuple et louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations. » Que tous les peuples disent tes louanges. Pour nous aujourd'hui, nous avons peut-être plus ou moins conscience que nous avons été greffés au peuple de Dieu. Et pourtant, Romains 11, 17 à 20, je vous le laisse lire chez vous, décrit le peuple de Dieu comme un arbre. Les Juifs ont poussé sur cet arbre. Et ceux qui ont croyé restent sur l'arbre. Ceux qui ne croient plus, ceux qui ne croient pas en Jésus ont été coupés. Et nous qui croyons en Jésus, nous avons été greffés à cet arbre aussi, à cette famille de Dieu. Donc Paul incite les chrétiens non-juifs à respecter leurs ancêtres dans la foi et reconnaître l'exemple qu'ils sont pour nous aujourd'hui. Les versets 9 à 11 sont pour nous aussi, les versets 9 à 11 nous montrent également que même avant que Jésus soit venu sur cette terre, les Juifs invitaient déjà tous les peuples à faire partie de le peuple de Dieu. Ainsi faisant partie d'une famille, une grande famille. Cet exemple de presque pré-évangélisation pouvait susciter chez les chrétiens d'origine non-juive une forme de respect vers les chrétiens juifs. Peut-être un respect qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils pouvaient aussi regarder les juifs, les chrétiens juifs, comme des exemples aussi. Au verset 12, Paul montre aux chrétiens que leur Messie vient des Juifs. Isaïe, le père du roi David, est nommé dans la généalogie de Matthieu 1, verset 6. Et ce verset 12 provient du chapitre 11 d'Isaïe. 600 ans avant que Jésus ne parcourt la terre, Isaïe avait déjà révélé l'ouverture de Dieu aux nations non-juives en annonçant notre espérance qui se retrouve en Jésus. Le projet de Dieu de nous greffer à son peuple a existé depuis toujours. Donc nous, comme les chrétiens non-juifs de Rome, nous avons besoin de reconnaître l'importance du peuple juif dans le plan du salut. Ainsi, les deux groupes des chrétiens qui existaient à Rome devaient respecter les uns les autres. Certes, Paul montrait aux chrétiens d'origine juive qu'on pouvait manger tout ce qu'on voulait, sans être condamné. Mais de la même manière, Paul a montré que les Juifs étaient des exemples par leur accueil et leur invitation. Ainsi, Paul invite ces deux groupes à vivre en harmonie les uns les autres. Je me demande si nous, les jeunes dans l'Église, je me demande si on pourrait apprendre de nos plus anciens dans l'Église. Est-ce qu'il y a des choses que nous faisons différemment aujourd'hui que nous méprisons ceux qui ont fait autrement dans le passé? Je pense aux cantiques, par exemple. Je sais que pour ma part, instinctivement, j'aime bien les chants qui sont un peu contemporains, dynamiques. Mais ce n'est pas pour autant que je dois oublier l'intérêt des cantiques plus anciens, qui sont souvent des paroles bien plus profondes. Et si, juste, si nous, les jeunes, on a des choses à apprendre, je pense que ça va dans les deux sens. Mais bon, notre Église est multiculturelle, multigénérationnelle, multiprofessionnelle, multi tout ce que vous voulez. De la même manière que les deux groupes des chrétiens sont appelés à coexister ensemble, se respecter et s'accueillir mutuellement, nous aussi, nous sommes appelés à regarder à ce que nous rassemble et à prendre des uns des autres. Lorsque Charlotte et moi avons été accueillis par ce couple à Nîmes en juillet, et je ne dis pas leur prénom parce que je pense qu'ils n'aimeraient pas, mais j'avais pour projet de construire un lit dans notre petite Clio. Voilà. On voulait partir en vacances, même en Norvège, avec la Clio, et on voulait dormir dans cette voiture. Mais à un moment, j'ai réalisé que je n'ai pas les compétences pour faire cela tout seul. J'ai dû laisser ma fierté à côté et leur demander s'ils pouvaient m'aider. C'est à ce moment-là qu'il m'a donné plein d'idées, plein d'outils et plein de bois aussi pour construire le lit. Et oui, nous sommes partis en vacances avec la Clio. Le point que j'aimerais transmettre, et je crois que le texte nous montre aussi, c'est que nos différences dans la foi peuvent être complémentaires et même peuvent être notre plus grande force. Mais je rajoute une petite mise en garde. Si nous nous retrouvons en train de suivre l'exemple d'un frère ou d'une sœur qui s'écarte de la manière dont Christ nous appelle à accueillir, alors ayons le courage de reprendre le bon chemin. Nos frères et sœurs dans la foi sont des très bons exemples, mais notre modèle ultime, c'est Jésus. Rendons gloire à Dieu par notre accueil. Le verset 7 de notre texte termine par « pour la gloire de Dieu ». Quand nous accueillons nos différences et nous accueillons l'exemple de chacun, c'est pour rendre gloire à Dieu. L'accueil n'est donc pas un simple bonjour lors de nos premières rencontres. Certes, cette dimension humaine existe et elle est même très importante. Mais il y a une dimension divine qui est bien plus grande. En prêchant sur Jean 13 la semaine dernière, j'ai fait exprès de ne pas mentionner le verset 20. Je voulais l'utiliser aujourd'hui. Le verset 20 est quand même essentiel dans notre accueil des uns des autres. Et Jésus dit, « Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Chers amis, est-ce que nous réalisons que quand nous accueillons un frère ou une sœur, nous accueillons Christ lui-même? Ainsi, la façon dont nous accueillons ou nous rejetons quelqu'un en face de nous peut rendre gloire à Dieu ou lui déplaire. lorsque nous choisissons l'unité à la place de la division, l'accueil à la place du rejet, l'intérêt à la place du mépris, nous rendons gloire à Dieu car nous reconnaissons la famille dans laquelle il nous a placés. Quant à nos relations humaines, Dieu n'est pas indifférent. Il s'y intéresse car nous formons le corps de Christ, appelé à rayonner dans ce monde. Notre manière de nous accueillir peut être un témoignage visible de l'amour de Dieu. Mais si nous ne faisons pas attention, notre accueil peut aussi repousser des gens, résultant à un contre-témoignage de cet amour qui vient de Dieu. Et si en accueillant quelqu'un dans l'Église, nous imaginons que c'était Christ lui-même? Je pense, en tout cas, j'essaierai d'être suffisamment souriant, jovial, bienveillant, pourquoi pas réceptif, à l'écoute. Et j'espère que je le traiterai comme mon roi, mon maître, celui qui est parfait et qui peut m'apprendre plein de choses. Alors pourquoi j'ai du mal à faire ça avec des membres dans mon église? Quand j'avais 15 ans, donc ce n'est pas il y a très longtemps, hein, mais il y avait des bracelets qui circulaient au Royaume-Uni avec les lettres WWGD, je pense que c'est G. What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Peut-être quand nous rencontrons quelqu'un cette semaine, quelqu'un de nouveau ou d'un ami proche, avant de les accueillir, nous pourrions nous demander comment Jésus l'accueillerait. Paul termine son exhortation au verset 13 par une prière de bénédiction pour l'Église de Rome. Que l'Église de Rome puisse trouver la joie et la paix en s'accueillant mutuellement. Lorsque nous accueillons de façon semblable à Christ, la joie et la paix règnent au sein de notre famille. Dieu comble notre cœur par son Saint-Esprit et nous donne une espérance. Oui, l'accueil comme Christ nous donne une espérance réelle. Une espérance réelle du jour où Dieu nous réunira tous, nous accueillera tous dans son royaume éternel, où la joie et la paix règnent pour toujours. Ainsi, aujourd'hui, accueillons-nous les uns les autres pour rendre gloire à Dieu le Dieu vivant, celui qui nous a comblés entièrement lorsque nous avons choisi de faire partie de sa famille. Tout comme Charlotte et moi, et je pense tout le monde ici, ce couple qui nous a accueillis n'est pas parfait. Et nous ne sommes pas d'accord sur chaque sujet. Mais je crois que leur accueil ressemblait à celui du Christ. Ils ont préparé de la nourriture pour nous. Ils nous ont écoutés sans jugement. Et ils nous ont conseillés avec humilité. Ils nous ont transmis leur amour pour les autres, leur accueil sans condition et leur foi en Dieu. Malgré nos différences, ils nous ont accueillis et ils sont des exemples pour Charlotte et moi. Et je crois que leur accueil sincère, fait par amour, a rendu gloire à Dieu pendant ces 10 jours. Charlotte et moi avons été si bien accueillis dans cette assemblée, au point que nous pourrions presque croire qu'il n'y a aucun souci entre nous. Et peut-être c'est le cas. Et si oui, franchement, tant mieux. Mais si ce n'est pas ton cas, peut-être ce matin, c'est ton occasion, ton opportunité pour renouveler l'accueil entre toi et ton prochain. Ton opportunité à oser demander pardon. Ton opportunité à retrouver la réconciliation. Que Dieu nous aide à accueillir nos différences et à reconnaître chacun comme un exemple pour nous. que le Saint-Esprit nous convainc de là où nous pouvons nous améliorer dans notre accueil. Et que Jésus-Christ nous aide à accueillir de manière semblable à lui. J'aimerais bien qu'on prenne un temps de silence pour que Dieu puisse nous révéler comment nous pouvons personnellement le ressembler dans notre accueil cette semaine. Je finirai ce temps de silence par prière. Seigneur, tu sais que nous pourrions prendre plus de temps en silence pour toi, pour t'écouter, pour que tu puisses révéler dans nos cœurs qui nous devons retrouver cet accueil avec. Comment accueillir de manière semblable à toi? Seigneur, merci pour cette assemblée. Merci pour ton corps de Christ, cette famille. Merci pour nos différences qui sont complémentaires. Merci pour l'exemple que chacun est pour un autre. Et merci parce que tu nous donnes l'occasion de te rendre gloire par notre accueil. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux, je pense sûrement nous tous, nous qui avons reçu un appel à retrouver l'accueil avec nos frères et sœurs. À renouveler cet accueil, à demander pardon, à retrouver la réconciliation. Seigneur, je te prie de nous donner le courage d'aller voir cette personne, ces personnes. Et Seigneur, non seulement le courage, mais aussi la capacité de parler avec amour. Seigneur, nous voulons être une communauté où ta vie jaillisse en abondance. Que notre accueil puisse ressembler au tien, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen.